Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
La marche de l'histoire.
Suzanne Giraud, une Française en Ukraine, 1900-1919.
J'ai vécu 21 ans en Russie. J'y suis arrivée dans l'hiver 1899. Je suis entrée dans une famille russe où j'avais des élèves. Et là, j'ai pu apprécier alors vraiment le caractère, la mentalité des Russes.
C'est un témoin exceptionnel que vous allez entendre. Elle est octogénaire quand elle est enregistrée très longuement en 1966 par l'ORTF. Le confrère qui l'interroge est resté anonyme. Et cette conversation, d'ailleurs, a-t-elle jamais été diffusée? Les extraits ici choisis concernent le séjour de Suzanne Giraud pendant près de 20 ans en Ukraine, elle dit Russie. Elle est préceptrice dans des familles de la haute société où elle enseigne en français. Un français, vous allez l'entendre, parfait de précision et d'élégance. Au début du siècle, en Ukraine, la revendication nationale est forte. La révolution de février 17, puis les tremblements de terre d'après octobre vont permettre au mouvement d'indépendance de se déployer. Mais Suzanne Giraud, elle, est partie prenante du mouvement ouvrier russe. C'est la prise du pouvoir par les bolcheviks qui l'intéresse. De retour en France, elle sera d'ailleurs un instant, au milieu des années 1920, la personnalité numéro un du Parti communiste français. Et en dépit des avanies qu'elle y subira, elle lui restera fidèle. Elle sera ainsi, pendant toute la 4e République, sénateur de la Seine. Vous allez constater qu'en 1966, au moment de cet entretien, elle n'est pas vraiment retirée du débat politique.
J'habitais donc à Odessa dans des conditions particulièrement bonnes. Dans une famille russe où j'avais des élèves. Et dans cette famille, ils m'ont accueillie absolument comme leur fille aînée. Ces gens étaient des gens aisés. Mais bientôt s'imposa à mon attention la façon dont vivaient les travailleurs. Nous étions dans les étages. Et alors je m'aperçus que les travailleurs vivaient dans les sous-sols, de véritables caves. Moi-même, je suis d'extraction très modeste. Mes parents étaient ouvriers. Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire la comparaison entre les conditions dans lesquelles j'avais grandi, moi, fille d'ouvrier, et les ouvriers de la Russie. Ils vivaient donc dans les sous-sols, des sous-sols qui étaient de véritables caves, où les murs ruisselaient, où il fallait éponger le sol plusieurs fois par jour, quand ce n'était pas de la terre battue, qu'on pouvait le faire. Les enfants, ils mouraient comme ils naissaient. Dans les étages, il y avait un ou deux appartements. Mais dans les sous-sols, la même superficie était occupée par 5-6 familles ouvrières qui n'avaient absolument qu'une pièce. Dans les faubourgs, les travailleurs étaient parqués dans des mêmes conditions. L'Ukraine avait le bassin du Donetsk, les puits de charbon, la métallurgie, des ouvriers qui travaillaient en usine. Les journées de travail étaient de 10, 12 et 14 heures. Et à ces conditions de vie très difficiles, s'ajoutait encore une nourriture qui laissait beaucoup à désirer, si l'on peut dire simplement cela. Les travailleurs se nourrissaient de hare en sort et de pain noir. Le pain de sarrasin, il y en avait de qualités différentes. Or, il ne pouvait se payer que la qualité inférieure. C'était tout ce qu'il mangeait. Il ne faut pas penser que j'exagère. Et je me souviens à l'époque d'avoir lu des articles médicaux où des médecins osaient dire que le hare en sort et le pain noir était la meilleure nourriture qu'il soit pour l'être humain. Je pense que les médecins n'en mangeaient pas. Quand ils sortaient de leur travail, épuisés, mal nourris, il est évident que ces travailleurs cherchaient la possibilité de prendre quelque chose qui leur aurait donné un coup de fouet. Alors là, le gouvernement tsariste intervenait à plein. la vodka leur était distribuée. Et ces pauvres gens s'imaginaient qu'en buvant la vodka, ils reprenaient des forces. Alors le spectacle était le suivant. La vente de la vodka était interdite dans les traktirs, c'est-à-dire les bistrots. Évidemment, le bénéfice qu'aurait prélevé le bistrot aurait été moins de bénéfice pour l'État. Alors l'État avait ouvert des magasins où l'on vendait la vodka. Mais interdiction, soi-disant par moralité, de consommer sur place. Alors les travailleurs rentraient, prenaient une bouteille de vodka, sortaient sur le bord du trottoir et d'un plat de la main tapaient la bouteille, le bouchon sautait et d'une seule goulée avalaient toute cette bouteille de vodka. Puis ils rentraient, ils échangeaient leur bouteille vide contre une bouteille pleine et ça recommençait. Et c'est ainsi jusqu'à ce qu'il roule ivre-mort et que le soir, dans les rues d'Odessa, vous pouviez voir sur le bord des trottoirs et dans les caniveaux, je dis bien des centaines d'hommes et de femmes ivres-morts. Mais cette exploitation, je peux dire capitaliste, s'enchevêtrait avec un régime encore féodal. C'est-à-dire que non seulement il faisait des journées de travail très longues, mais encore les conditions, la façon dont on les traitait, était un traitement absolument comme on traitait les serfs d'autrefois. On avait conservé les méthodes féodales.
Suzanne Giraud le dit en termes moins choisis, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un développement en ciseaux. Les écarts sociaux se creusent particulièrement en Ukraine, qui est la région la plus riche de la Russie, qui connaît un rythme de croissance qu'on dirait aujourd'hui chinois. En janvier 1905, ces contradictions éclatent. Commence une première révolution qui va s'étendre à l'ensemble du pays et prendre toutes les formes. Révoltes paysannes, grèves ouvrières, mutineries de soldats et de matelots, on se souvient du Potemkin. Le désordre est profond toute l'année.
Un jour que quelqu'un disait au ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Plevet, qu'on sentait monter la révolution. Tranquillement, il a répondu « Oh, la révolution, je la noierai dans le sang des Juifs. » Alors je dois vous dire qu'en Russie tsariste, l'antisémitisme sévissait. C'était dans le Midi, et particulièrement en Ukraine, qu'étaient autorisés à vivre les Juifs. Il y en avait donc beaucoup. À Odessa, exploité exactement de la même façon que les travailleurs russes dans les usines. Parce qu'on a souvent tendance à penser que les Juifs ne sont pas sur le même pied d'égalité que les chrétiens. On les exploite exactement de la même façon et on les exploitait de la même façon. Bon, un beau jour, en effet, ça éclate, le mécontentement partout. À la Moldovanka. La Moldovanka était un faubourg d'Odessa qui était peuplé beaucoup de juifs. À la Moldovanka, on massacre les juifs. Alors, nous avons vécu le pogrom le plus épouvantable qui ait été déclenché en Russie. Il y en a eu d'autres, comme à Mogilev, mais rien n'a eu les dimensions du pogrom des Juifs à Odessa. Alors, il ne faudrait pas croire que le massacre des Juifs était fait par la population chrétienne. Pas du tout. Le massacre des Juifs était organisé par le gouvernement qui avait fait revenir de Sibérie les détenus de droit commun, les avait parqués dans le port d'Odessa, et où on leur donnait à volonté de la vodka jusqu'à 10 heures du matin. Ils n'étaient pas complètement sous, mais suffisamment pour être lâchés dans la ville. Alors, soi-disant, pour maintenir l'ordre, Ils étaient précédés par l'infanterie, ensuite les pogromistes, et ensuite la cavalerie, les cosaques derrière. C'était bien encadré. Les pogromistes n'avaient à leur disposition que des bâtons et des couteaux. Alors ils se livraient à des choses épouvantables. Lorsqu'ils arrivaient devant les maisons, les gens se sauvaient dans les combles. Alors ils prenaient les hommes qu'ils jetaient de là-haut dans la rue, les femmes, ils les traînaient dans la rue et les violaient, et les jeunes filles aussi. Les enfants, on les tuait. Les femmes enceintes, on leur ouvrait le ventre, on sortait l'enfant et on leur mettait de la paille dans le ventre. Je n'exagère pas. Ces choses se sont passées telles que je vous les raconte. C'était une chose effroyable. Ce massacre a duré 3 jours. Les Juifs ont immédiatement organisé une milice de défense. Ils se sont battus. Et dans la milice, il n'y avait pas que des Juifs, il y a eu des chrétiens qui ont participé à la défense des Juifs. Tous les membres de la milice qui ont été tués l'ont été par balles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été tués par les pogromistes, ils ont été tués par l'armée. Ça a duré 3 jours.
Dans le fer, dans l'acier, glacé, dur et muet, forge un cœur et qu'il soit le tien, homme, et viens. Viens dans la ville du massacre. Il te faut voir avec tes yeux, éprouver de tes propres mains, sur les grillages, les piquets, les portes et les murs, sur le pavé des rues, sur la pierre et le bois, l'empreinte brune et desséchée du sang, de la cervelle, empreinte de tes frères, de leurs têtes, de leurs gorges. Il te faut t'égarer au milieu des décombres, parmi les murs béants, leurs portes convulsées, parmi les poils défoncés, les moitiés de chambre, les pierres noires dénudées, les briques à demi brûlées, où la hache, le feu, le fer, sauvagement, ont dansé hier en cadence à leurs noces de sang. Et rampe parmi les greniers, parmi les toitures crevées. Regarde bien, regarde à travers chaque brèche d'ombre, car ce sont là des plaies vives, ouvertes, sombres, et qui n'attendent plus du monde guérison.
L'un des poèmes composés autour d'autres pogroms à une centaine de kilomètres d'Odessa, à Kitchinev. À Odessa, pendant le pogrom de 1905, Suzanne Giraud recueille une quinzaine de juifs pourchassés. 1914, au début de la Grande Guerre, Suzanne Giraud, son mari russe, Nicolas Frankel, cadre de banque mais syndicaliste, et leurs 2 enfants, un fils, une fille, quittent Odessa pour Kiev. Après 1917, s'ouvre une période inouïe. L'immense majorité de la population veut que cesse la guerre. Mais quand elle cesse, c'est pour ouvrir la porte à des occupations successives de l'Ukraine par les Allemands, les Polonais et à des guerres internes. Le mouvement national ukrainien réclame l'indépendance. Il met en place un parlement élu, la Rada. Les bolcheviks, eux, que soutient Suzanne Giraud, se soucient assez peu d'élections, mais ils doivent faire une place aux revendications d'autonomie. Le mouvement paysan, avec son héros Makhno, dit « ni rouge, ni blanc ». Les blancs, justement, les contre-révolutionnaires, se constituent dans la région, comme ailleurs, en armée, une armée que seule l'armée rouge peut contenir. Voici un chant venu des profondeurs de l'histoire russe et qui est réadapté à l'usage de ces temps terribles. À l'appel du grand Lénine se levaient les partisans.
S'avancèrent les s'avançaient les partisans. Notre paix, c'est leur conquête, car en 1917, sous les neiges et les tempêtes, ils sauvèrent les Soviets. Sous les neiges et les tempêtes, ils sauvèrent. Écrasant les armées blanches, les chassant les Atamans, ils finirent leur campagne sur les bords de l'océan. Ils finirent leur campagne sur les bords.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Aujourd'hui, Suzanne Giraud, française devenue bolchevique, raconte l'Ukraine en 1919. Au printemps de cette année-là, on était loin d'avoir chassé les Atamans, les Hetmans et autres seigneurs de la guerre et chefs des armées blanches. L'armée rouge est organisée par Trotsky, plus que par Lénine. Lui et ses commissaires galvanisent par leurs discours, recrutent à tour de bras les cérémonies de serment, prennent une dimension extraordinaire. « Moi, fils du peuple, citoyen de la République soviétique, disait-on à la prestation de serment, je prends le titre de soldat de l'armée des ouvriers, paysans et travailleurs de la Russie et du monde. »
Стойко, дружно, смело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.
Les bolcheviks, enfin les ouvriers de l'arsenal, avec les autres ouvriers, se rendirent maîtres de la ville. Les lycées ont fermé, mon fils avait 13 ans. Quand le lycée a fermé, mon fils de son propre chef s'est engagé dans l'armée rouge. Et croyez-moi, ce n'est pas parce qu'à la maison, il avait reçu une éducation révolutionnaire particulière. Ce n'était absolument que le reflet de l'atmosphère générale qui régnait dans le pays. Comme il connaissait le français, on le mit dans une formation militaire où il y avait des Français. Des soldats français qui avaient quitté les navires à Odessa, les navires français, et qui s'étaient ralliés à la Révolution. Seulement, ce que nous savions aussi, et ce que savaient les autorités, c'est que parmi ces soldats français, il y en avait pas mal qui s'étaient ralliés à la Révolution pour échapper au conseil de guerre, parce qu'ils avaient fait des choses qui n'étaient pas recommandables. On n'avait pas très confiance en eux. Alors, on m'a dit, ben, comme il rentre le soir couché à la maison, tu te feras raconter ce qui se passe dans la journée. Alors il rentrait le soir, puis il me racontait. Il me racontait comment les Français, les soldats français trafiquaient avec l'essence, comment ils faisaient du marché noir. Et jamais le gosse, qui en réalité se trouvait être en quelque sorte un agent d'information, ne s'est douté de la chose. Il rentrait comme un gosse de 13 ans qui raconte à sa mère, d'autant plus que mes rapports avec mes enfants étaient de grande camaraderie.
Note de la rédaction, ce récit est assez curieux parce que les mutins qui ont hissé le drapeau rouge sur les cuirassés français stationnés en mer Noire pour appuyer les Blancs, ils sont généralement présentés sous un jour plus héroïque par les communistes français. Il est vrai que quand Suzanne Giraud enregistre, en 1966, leur leader légendaire, André Marty, a été exclu depuis longtemps du Parti communiste français. Mais revenons à l'été 1919. Le chef de l'armée blanche, le général Denikin, entame une marche vers l'ouest, accompagnée d'une terreur dissuasive, et il prend Kiev le 31 août.
Dedikins se rendit maître de toute l'Ukraine en 1918. Il fallut évacuer avec mes deux enfants. Je pris deux valises et deux enfants. Puis nous partîmes sur Moscou. Ça va vous sembler drôle ce que je vais vous dire. Je crois n'avoir jamais été aussi heureuse que le jour où je me suis trouvée avec mes deux valises et mes deux enfants, enfin détachée de mes meubles et de tout ce qui me rattachait. Et je pensais bien ne plus jamais connaître cet attachement aux choses qui vous retiennent. Oui, ben j'ai recommencé depuis. Mais vraiment, ce jour-là, je me sentais heureuse. J'avais mes deux gosses et deux valises. C'est tout ce que je possédais. Je n'avais plus rien. J'étais contente. Et on partait sur Moscou. Alors, le voyage. Nous partions avec le bureau du Sud de la 3e Internationale, dans un wagon à bestiaux. Tout le train, du reste, était composé de wagons à bestiaux. La littérature était entassée dans le fond. Nous avions un tout petit peu de ravitaillement, ou pas beaucoup. Nous avions un peu d'argent, et nous voilà partis. Eh bien, de Kiev à Moscou, nous avons mis 15 jours. Parce qu'il n'y avait pas de charbon. On chauffait la locomotive au bois. Quand il était sec, il voulait bien brûler, mais quand il était vert, il ne brûlait pas. Et quand la locomotive s'arrêtait parce qu'il n'y avait plus de bois, n'importe où, en pleine brousse, eh bien, tout le monde descendait, se précipitait dans des bois et des forêts. Il y en avait tant qu'on voulait. Tout le monde se précipitait et on cherchait si on pouvait trouver des stères de bois qui étaient déjà coupées. Quand on a trouvé, c'était un bonheur, il n'y avait plus qu'à l'amener, puis il était un peu sec. Mais quand il n'y en avait pas, eh bien, on abattait des arbres et puis on coupait du bois vert. Vous voyez d'ici comment la locomotive répondait. Alors, on ne savait ni où on s'arrêtait, ni quand on repartait. Il arrivait quelquefois qu'on était tous éparpillés quand tout d'un coup on voyait le train se mettre en marche. Alors tout le monde arrivait et sautait dans les wagons. Au cours de ce voyage, il fallait aussi se ravitailler parce que nous étions partis avec très peu de choses. Nous avions quelque argent. Alors dans les arrêts forcés, nous éparpillions aussi dans les villages voisins. Mais les paysans n'acceptaient pas notre argent, qui n'avait plus aucune valeur. Ils acceptaient bien de troquer. On a troqué certaines petites choses, mais enfin, il n'y avait pas grand-chose à troquer. Nous étions convoyés, notre wagon, par deux soldats autrichiens. Ils avaient chacun un fusil, mais une seule balle. Nos deux soldats autrichiens, eux aussi allaient à la recherche du ravitaillement. Et un jour, l'un d'eux arrive avec un très grand seau plein de pommes de terre. Stupéfaite, nous lui demandons, mais où as-tu trouvé ces pommes de terre? Il nous répond, à la salope, elle s'en souviendra. Mais de quoi s'agit-il? Il dit, je rentre chez des paysans aisés, ça se voyait. Elle était en train de faire des petits pains blancs, des galettes, qu'elle va vendre à la prochaine station, vous allez voir. Je lui demande si elle n'a pas quelque ravitaillement. Elle me répond, non, nous n'avons rien. Parce que je dois dire qu'au moment, à ce moment-là, en Russie, il y avait énormément de paysans pauvres. Il y en avait moins de paysans moyens, mais il y avait quand même les Koulaks qui étaient riches. Et celle-là en était certainement. Il dit, je vais encore, je circule dans le village, j'essaye de trouver quelque chose, je ne trouve rien, je reviens chez la bonne femme, puis je me dis, attends, j'ai bien trouvé quelque chose. Je suis rentrée dans l'entrée, elle ne m'a pas attendue, et j'ai vu ce seau de pommes de terre. J'ai dit, oh la canaille! Je prends ce seau de pommes de terre, tant pis pour elle. Et il est évident que nous nous sommes nourris avec ces pommes de terre et que nous les avons trouvées fameuses. Et lorsque nous arrivâmes à la station suivante, eh bien, la bonne femme était là qui vendait ses petits pains blancs.
Trotsky disait, dans la forteresse assiégée, il faut s'imposer une discipline collective de consommation, mais il faut aussi savoir faire face à la coulaque. Suzanne Giraud a souvent eu une réputation d'Amazon, mais son interlocuteur anonyme de 1966, dans cet enregistrement que nous retranscrivons, lui pose tout de même une question à propos de son mari, mari russe, Nicolas Frankel, qui est, rappelons-le, cadre de banque et néanmoins militant lui aussi.
Au moment de la révolution de 1905, les syndicats s'étaient constitués. Mon mari avait été secrétaire du syndicat. Lorsque la révolution 1905 a été écrasée, les syndicats, dans tous les cas les syndicats de banque, puisqu'il était secrétaire, premier secrétaire d'une des plus grandes banques foncières d'Odessa, les syndicats ont continué à fonctionner dans l'illégalité, il est resté fonctionnaire. Au moment où la situation est devenue très critique à Kiev, qu'on a senti qu'il serait nécessaire d'évacuer, le syndicat des employés de banque ont immédiatement mis la main sur les banques. Et ils ont vidé tous les coffres-forts, toutes les richesses qu'il pouvait y avoir, tout ce qu'ils ont pu trouver dans les banques, et pour les mettre à l'abri de Denikin, tout ça a été envoyé dans des sacs plombés sur Moscou par le Dniepr. Alors je savais que mon mari était parti avec le dernier bateau et que ce bateau avait été soumis à une fusillade intense. Et comme il y avait déjà une dizaine de jours que nous étions à Moscou et que je ne le voyais toujours pas arriver, je commençais à désespérer pensant que peut-être ce bateau avait été coulé. Maintenant, il est arrivé quand même avec leur chargement. D'autres étaient arrivés avant, lui est arrivé avec ce dernier bateau. Du reste, je tiens tout de suite à dire que je sais de façon pertinente que tout ce qui a été envoyé d'Ukraine sur Moscou a été ensuite, lorsque le gouvernement soviétique s'est installé définitivement en Ukraine, que toutes ces recherches sont revenues en Ukraine, ont été restituées à l'Ukraine.
La révolution comme exercice de la rectitude, j'ajouterai aussi de l'exactitude, Suzanne Giraud, avant de rejoindre la Russie, a été élevé en Suisse. Cette émission a été préparée par l'équipe de La Marche de l'Histoire avec à la réalisation Jacques Sigal, la préparation Franck Olivard, Frédéric Martin et Lincoln Agulesco.